La radio est un art aveugle.
Yeah, it's quite cool.
Et ensuite,
au début, c'était des déformations, c'était des coupures.
Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe.
Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus.
Énormément, très méchants.
Bonjour, bienvenue à tous et toutes dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. C'est un podcast natif, les interviews d'Eric Cooper, qui vous permettent de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. Et avant de découvrir celle qui est l'actrice du podcast aujourd'hui, une petite citation. Tu es aveugle, je suis sourd-muet, que ta main touche la mienne et que la communication soit. Notre invitée aujourd'hui, celle qui est l'actrice du podcast, eh bien, c'est Lynn Brasseur. Elle est chargée de communication au sein de l'ASBL La Lumière. Elle va nous faire découvrir cette association. Bonjour Lynn Brasseur. Alors, on parle de La Lumière. Dites-nous un petit peu, c'est quoi La Lumière exactement ?
La Lumière, c'est une association centenaire, plus de centenaire, qui existe pour venir en soutien aux personnes aveugles et malvoyantes, pour leur permettre d'accéder à l'autonomie, au bien-être socio-culturel et à l'inclusion sociale dans tous les domaines de la vie.
Comment est née La Lumière ?
Alors, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1919, quand les soldats sont revenus aveugles du champ de bataille, deux infirmières, Nelly Durieux et Madeleine Henrard, ont créé cette petite association pour s'occuper des soldats au départ. Et puis, elles ont vu que ça pouvait servir aussi aux personnes de la société civile qui, souvent, étaient délaissées, qui n'avaient pas de travail, leur créer une certaine autonomie, leur permettre de s'occuper de leur famille. Et donc, l'association a grandi pour aujourd'hui atteindre la taille d'environ une soixantaine de personnes ici pour les services médico-sociaux et la bibliothèque publique spéciale, et une soixantaine de personnes qui travaillent à l'entreprise de travail adapté.
Une question de vocabulaire, est-ce qu'on dit aveugle ou malvoyant ?
On dit les deux, parce qu'il y a des personnes malvoyantes pour lesquelles il leur reste un reste visuel, donc qui ne sont pas totalement aveugles, et puis il y a la personne aveugle qui n'ont pratiquement plus du tout de vision ou qui naissent sans vision du tout.
Quelles sont les causes en fait de la cécité ? Est-ce qu'on devient aveugle ? On est aveugle ? Est-ce qu'il y a des accidents qui provoquent ça ? Le stress ? Comment ça se passe ?
Un peu de tout, oui, on peut naître aveugle, donc nous on a des personnes ici qui sont nées non-voyantes, parce que par exemple le nerf optique n'est pas attaché à l'œil, donc ça c'est impossible de voir. Il y a des personnes qui deviennent aveugles avec le temps, donc par exemple qui sont atteintes de rétinite pigmentaire ou de cataracte ou d'autres maladies qui font que, comme le glaucome, la vue disparaît peu à peu. Il peut y avoir un accident. Il y a certaines personnes qui sont venues ici parce que elles sont tombées. Donc c'est fou, mais ou alors elles ont eu un accident de moto ou de voiture. Oui, toutes les raisons existent, mais c'est plus facile d'atteindre l'autonomie, c'est sûr, quand on perd la vue plus tôt, parce que on a des facultés d'adaptation quand on est plus jeune qu'on perd avec le temps, malheureusement.
Est-ce que grâce à une opération, on pourrait rendre la vue à un malvoyant, même quelqu'un qui est malvoyant de naissance ?
Là, c'est compliqué. Ça dépend effectivement quel type de maladie est atteinte à la personne. Parce que oui, certaines maladies, on peut les opérer et d'autres, absolument pas. Donc, on ne peut pas créer comme ça, de manière illusoire, un espoir qui ne serait peut-être pas accessible à tout le monde.
Pourquoi les malvoyants portent des lunettes noires ?
Alors, toutes les personnes malvoyantes ne portent pas des lunettes noires. Quand les personnes en portent, c'est qu'elles ont ce qu'on appelle une intolérance à la lumière. Donc, une intolérance, quand les lumières sont trop fortes, elles ont du mal et ça leur fait vraiment, ça leur provoque une douleur dans l'œil. Donc ça, c'est plus pour se protéger de la douleur qu'autre chose. C'est pas pour le look, par exemple.
Une personne qui est malvoyante ou aveugle, est-ce qu'elle développe d'autres sens, par exemple l'ouïe, par exemple l'odorat ou d'autres sens en fait ?
Oui, forcément, les autres sens vont être compensatoires. Hein. Donc l'ouïe, c'est très très important puisque tout passe par là, essentiellement, quand on est en communication avec les autres, en tout cas. Et puis, le toucher, c'est pour la vie quotidienne, quand on apprend le braille, quand on doit faire la différence entre un objet ou un autre, forcément, le toucher va être beaucoup plus mis en avant aussi.
Le toucher, par exemple, est utilisé dans les musées, quand vous faites des visites visite dans les musées, c'est le toucher qui est utilisé. Nous, on les regarde, eh bien, les malvoyants touchent en fait les œuvres d'art.
Oui, il y a donc le toucher, par exemple, nous faisons des reproductions d'œuvres d'art en relief et avec des textures différentes pour évoquer les textures qui sont représentées dans une toile, par exemple, mais aussi l'auditif, puisqu'il y a la description de la toile ou de la pièce, de la sculpture, qui est importante aussi. Donc ça, ça passe aussi par l'auditif. Les deux sont vraiment complémentaires.
Lorsqu'on croise une personne malvoyante dans la rue, quelle est la meilleure façon pour interagir avec lui ?
De lui parler, de communiquer, de lui poser la question si la personne a besoin d'un soutien, d'une aide. Surtout, ne pas se jeter sur la personne, la prendre de force par le bras, c'est ce que la plupart des gens nous disent, parce qu'effectivement, c'est une intrusion dans la vie de la personne. On ne ferait pas ça avec quelqu'un de voyant. Pourquoi on ferait ça avec quelqu'un de non-voyant ? Donc, toujours communiquer, vraiment s'adresser à la personne, lui poser la question, ne pas avoir peur. C'est fondamental.
Est-ce qu'il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser comme voir, regarder, tiens, regarde, j'ai une photo sur mon appareil smartphone et tu veux la voir. Il faut vraiment éviter ce genre de vocabulaire ?
Absolument pas. Tous les mots sont bons à dire. Donc, surtout ne pas enlever le verbe voir ou regarder de son vocabulaire. C'est très, très important. Les personnes aveugles et malvoyantes utilisent ce vocabulaire-là aussi parce qu'elles voient d'une autre manière, elles regardent d'une autre manière et elles peuvent aussi voir, regarder une photo, un film. Ça dépend de leur capacité, de leur reste visuel et aussi de leurs envies. Il faut leur laisser décider. Il ne faut pas décider à leur place. Ça, c'est fondamental.
Certains malvoyants sont accompagnés par des chiens guides. Est-ce que ces chiens guides, on peut les caresser ou bien il vaut mieux ne pas y toucher parce que ça pourrait, par exemple, perturber la personne qui est la malvoyante, en fait, ou le malvoyant?
Tout à fait. Donc, il ne faut surtout pas caresser un chien guide, il ne faut pas s'adresser à lui, il ne faut pas l'appeler, il ne faut pas, parce que ça peut vraiment mettre la personne en danger, qui, elle, est guidée par le chien. Le chien ne doit pas être distrait, il doit être vraiment concentré du début à la fin pour que le guidage soit parfait.
On va un petit peu parler des activités que vous organisez. Et la première, c'est une entreprise de travail adaptée. Ça marche comment ? Ça fonctionne comment ?
Alors, c'est une entreprise de travail adaptée avec 60 ouvriers qui s'occupent de mailing, conditionnement sous enveloppe, qui font de la reliure, de la chaiserie, donc vraiment pailler des chaises. Et c'est une société qui travaille donc à Cointe avec des chefs d'équipe différents qui, par groupe, par équipe, bien font toutes sortes d'activités qui nous permettent, nous aussi, d'avoir des rentrées financières, puisque l'ETA fonctionne aussi en roue libre grâce aux clients qui font appel à elle. Donc ça, c'est très important. Et généralement, les clients sont très contents du service rendu.
Les personnes donc, qui sont membres de La Lumière, qui n'arrivent peut-être pas à trouver un travail dans cette entreprise de travail adapté, ils ont difficile à trouver du travail en dehors, dans des sociétés en dehors de La Lumière ?
Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que dans l'entreprise de travail adapté, il y a très peu de personnes malvoyantes. Ce sont des personnes porteurs d'autres types de handicap. Donc, ça peut être une surdité, ça peut être un retard mental, un problème de locomotion. Donc, il y a, je dirais... 3 ou 4 personnes malvoyantes sur une soixantaine d'ouvriers. Donc, pour les personnes mal ou non-voyantes qui cherchent de l'emploi, nous, on a une cellule socio-professionnelle pour les aider, les guider. On démarre dès le départ sur la confiance en soi, sur la rédaction du CV, sur comment se présenter à un employeur, quel type d'employeurs peuvent être intéressés. Et donc, du début à la fin, on accompagne les personnes dans ce processus.
Alors, vous venez de parler de confiance en soi. La personne malvoyante, est-ce qu'elle manque de confiance en elle en général ou bien c'est seulement des exceptions ?
Ben, ça dépend des personnes forcément, mais en général, c'est très difficile quand on perd la vue avec le temps, oui. Alors là, il y a une perte de confiance qui s'installe parce qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir, parce qu'on ne sait pas si on va arriver à continuer à vivre seul. Et donc, c'est là qu'on intervient pour justement aider cette personne dans sa confiance, mais aussi dans tous les gestes quotidiens qui vont lui permettre de maintenir son autonomie.
Votre service social, quelle aide offre-t-elle à vos membres, donc aux membres de La Lumière ?
C'est beaucoup de soutien administratif, donc pour toutes les démarches que la personne doit faire dans sa vie quotidienne, donc les courriers, tout ce qui est vie professionnelle, tout ce qui est aussi vie scolaire, et puis aussi tous les ateliers culturel et créatif. Donc, le service social, c'est le service qui met en place le tissage, la poterie, qui met en place l'éveil artistique, les ateliers sportifs aussi. Donc, c'est très important aussi pour que la personne garde un épanouissement et soit bien soutenue dans la vie quotidienne.
Quel genre de sport peut-on faire quand on est malvoyant ?
Alors nous, pour le moment, on a trois sports essentiellement. On a un club de marche, un club de jogging et un club de tandem. Mais nous sommes en train de mettre en place un club d'escalade. En fait, je pense que la plupart des sports peuvent être accessibles à des personnes aveugles et malvoyantes tant qu'elles sont bien encadrées et qu'elles reçoivent les bons conseils. Et souvent, nous faisons appel à des guides bénévoles qui les aident justement pour faire leur activité sportive.
Deux mots sur la cellule surdit cécité. Ça veut dire que vous avez des personnes qui sont à la fois sourdes et malvoyantes. Ça doit être pas facile hein, pour elles de vivre au quotidien ces deux problèmes, je dirais.
Non, c'était pas facile du tout. La plupart des gens sont atteints de la maladie de Usher. Donc, c'est une maladie génétique rare qui fait qu'ils perdent la vue et puis l'audition. Donc, c'est très, très complexe. Et donc, ça veut dire que nous, on considère la surdité cécité comme un handicap à part entière. On n'est pas sourd et aveugle, on est sourd aveugle. Et donc, nous, on a une quarantaine de personnes qui sont suivies par notre service surdité cécité. Et donc là, on apprend à lire sur le langage des signes, sur les mains. On lit sur les mains. Donc ça, c'est très, très, très complexe. Mais on a vraiment une cellule qui travaille là-dessus avec des conseils spécifiques pour ces personnes.
Vous parlez de handicap. La malvoyance, c'est un handicap ou pas ?
Oui, c'est un handicap. Oui, c'est reconnu comme tel. À partir du moment où on perd en autonomie et où on n'a plus accès à tous les services comme les personnes bienvoyantes, oui, c'est considéré comme un handicap.
Les enfants qui sont malvoyants, là aussi, vous les conseillez, il faut absolument les envoyer dans l'enseignement spécialisé ou bien ils peuvent faire leur classe avec les autres, en fait.
Ah oui, pour nous, c'est fondamental qu'ils fassent leur classe avec les autres. C'est ce qu'on appelle l'inclusion sociale. Donc l'inclusion sociale, elle démarre dès le plus jeune âge, à la maternelle, déjà à la crèche. Nous, on suit les puéricultrices, à la maternelle, les institutrices, pendant toute la période scolaire primaire et secondaire, et aussi ensuite pour les études supérieures. Donc nous, on travaille avec des logopèdes spécialisés qui accompagnent l'enfant en classe et qui adaptent ses cours pour qu'il puisse avoir accès à tous les cours qu'on appelle à composants visuel. Donc c'est surtout la géographie, donc on fait aussi des cartes en relief et les mathématiques. Et donc ça, pour ça, on est vraiment au taquet. Pour nous, c'est fondamental que l'enfant grandisse dans la société comme tous les autres enfants et grandisse avec les autres enfants de son âge. C'est fondamental.
Et je suppose que vous faites aussi, que vous organisez des supports pour les parents, parce que les parents qui s'aperçoivent qu'ils ont donné naissance à un enfant qui est aveugle ou qui devient aveugle peut-être au fil des années, ça doit être quelque chose de difficile à vivre pour eux ou pas, ou en fait ils arrivent quand même à, ils se disent, bah voilà, ce sera un enfant comme un autre.
Mais quand ils apprennent cette nouvelle-là, c'est toujours difficile à vivre. Donc, c'est sûr qu'il y a un accompagnement de l'entourage qui est fondamental, des parents, des grands-parents, même des instituteurs, des camarades de classe. On est là aussi pour expliquer ce que c'est que la malvoyance et pour donner les conseils avisés à l'entourage, adapter aussi la maison dans laquelle l'enfant va grandir. Donc, nous, on est là aussi. On arrive avec des ergothérapeutes sur place pour qu'on facilite la vie de la famille et pour que l'enfant puisse grandir de manière la plus épanouie et facile possible.
La culture, c'est aussi important pour vous. Quelles sont les activités culturelles que vous organisez pour vos membres ?
Alors, avec notre bibliothèque publique spéciale, il y a beaucoup d'activités qui sont organisées, comme des concerts, des sorties, des excursions, des visites de musées, des visites de villes. On organise aussi des conférences, des projections de films. Donc, pour nous, ça, c'est un facteur aussi indispensable à l'épanouissement d'une personne, c'est qu'elle puisse avoir accès à toute la culture, comme toutes les autres personnes. Donc, les livres aussi, bien entendu, puisque notre bibliothèque publique spéciale compte 10 000 livres audio. Et énormément de livres en braille et en grand caractère.
Si on veut être bénévole à la lumière, est-ce qu'il faut être malvoyant ou pas ?
Ah non, pas du tout. Donc là, vous pouvez l'être, mais vous pouvez aussi ne pas l'être et soutenir en tant que guide les personnes qui font du sport, des activités socioculturelles ou aussi être lecteur à notre bibliothèque publique spéciale. Donc ça nous permet d'avoir de plus en plus de livres audio grâce à ces soutiens de lecteurs bénévoles.
Et donc comment ça se passe la lecture d'un livre? Parce que ça peut parfois prendre plus d'une dizaine d'heures. Est-ce que le livre, on le choisit soi-même? On arrive avec le livre sous le bras? Comment est-ce que vous faites? Comment ça fonctionne?
Alors ça peut être les deux. Donc soit vous choisissez vous-même un livre, vous le proposez à la bibliothèque et vous le lisez parce qu'il vous a plu et vous a marqué, vous avez envie de rentrer dans le livre pour mieux le diffuser, ou soit c'est la bibliothèque qui vous propose un ouvrage si vous n'êtes pas inspiré ou que vous préférez lire les ouvrages dont on a vraiment besoin, qui viennent de sortir et voilà, qui intéresseront le plus grand public possible.
Une dernière question, quel est votre souhait pour permettre justement aux voyants de mieux vivre avec les malvoyants?
Moi, ce que je souhaite, c'est une ouverture d'esprit et ne plus avoir peur. Pour moi, le plus important, c'est de ne pas considérer l'autre comme quelqu'un de différent. C'est, comme on le dit, de voir l'humain tel qu'il est, malgré son handicap, derrière son handicap, au-delà. Donc, on est tous les mêmes et finalement, ce n'est pas important. Donc, soyons les mêmes les uns avec les autres, ne mettons pas de barrières.
Merci Lynn Brasseur de nous avoir présenté cette association qui depuis plus de 100 ans accompagne les personnes malvoyantes. Alors si vous avez envie d'en savoir plus, hein, vous qui nous écoutez sur cette association, vous pouvez aller sur leur site internet lalumiere.be. Alors si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, à le partager sur les réseaux sociaux et puis abonnez-vous, comme ça vous pourrez être tenu au courant avant tout le monde de la publication du prochain podcast. Sur ce, je vous remercie, que la force soit avec vous et avec tous les autres et à très bientôt.
Ça y est, c'est fini.